Bonjour, voilà, j'ai préparé quelque chose pour vous afin de vous bénir. Mon épouse et moi, nous ne sommes pas là, nous sommes à Vérone et à Venise aussi, la ville des amoureux. C'est notre frère et ami Charev qui nous offre ce voyage et on est tout content de pouvoir partir se reposer un petit peu avec la famille Charev là-bas, la famille Douache, en Italie. Donc, mais j'ai préparé quelque chose pour vous et je vais vous le donner. C'est quelque chose de simple. J'ai pris des notes là que je vais vous lire au sujet de l'expiation. Parce que j'ai constaté certaines choses dans mes tournées au sujet des souffrances que beaucoup de chrétiens ont. Et voilà, je m'aperçois que beaucoup de chrétiens ne savent pas ce que cela signifie, l'expiation. Alors, je vous invite à regarder dans un dictionnaire, premièrement, ce que signifie le mot expiation. Eh bien, d'après le dictionnaire, c'est la réparation d'une faute en subissant une peine imposée. Alors, on sait que Jésus l'a subi, n'est-ce pas, la peine, la punition, il était imposé, n'est-ce pas, la condamnation à mort pour réparer les fautes que nous avons faites. Ça, c'est, voilà. Maintenant, quand on regarde l'encyclopédie biblique, on apprend qu'en hébreu, expiation, c'est kiper. Et ce mot, il se réfère à l'idée d'étaler quelque chose pour couvrir, pour cacher, pour effacer, pour purifier. C'est faire disparaître le péché, c'est faire disparaître la colère de Dieu qui a été offensée. Voilà en gros ce que l'encyclopédie biblique nous dit, hein, en gros, très gros. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont envahis par le découragement. Quand ils voient les situations dans lesquelles ils se trouvent, ils sont découragés, même quand ils font des efforts soutenus. Parce que souvent ce découragement, cette déception vis-à-vis de soi-même ne découle pas forcément de mauvaises actions qu'ils ont faites. C'est souvent, ça vient des tensions dont ils ne sont pas tout à fait responsables. Et alors je voudrais vous parler de l'expiation ce soir, parce que l'expiation de Jésus-Christ s'applique à toutes ces expériences de découragement, à ces situations pénibles, parce que l'expiation de Jésus-Christ, elle concerne la vie tout entière. Jésus, notre Sauveur, est celui qui essuie les larmes de nos yeux. Et je voudrais vous lire un texte dans les Saintes Écritures, dans l'Évangile de... Où est-ce que j'ai mis ma Bible? J'ai tellement de choses sur mon bureau, mes enfants, si vous pouviez voir ça. Alors, je vais vous lire dans ma Bible, dans l'Évangile de Luc, et au verset 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année d'accueil par le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus a été oint, voilà pourquoi il est venu, n'est-ce pas? Et l'expiation du Sauveur, c'est donc son pouvoir guérisseur, son pouvoir de sauveur, non seulement du péché, mais aussi de toutes nos insouciances, de l'insouciance des autres, qui occasionnent des chagrins, de l'insuffisance humaine, des chagrins de la vie, de tout cela. L'expiation, c'est pas que pour les pécheurs. Nous devons comprendre ce mot pour comprendre qu'est-ce que c'est l'expiation de Jésus. Si on ne comprend pas le mot, c'est comme le mot rédemption. Un jour, j'ai posé la question et très peu de monde savait ce que signifiait le mot rédemption. Alors, je voudrais exprimer réellement ma pensée. Je sais que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, mais je vais rajouter une petite chose. Ne pensez pas que je rajoute à la parole de Dieu, mais je vais vous expliquer correctement. Je sais que c'est par la grâce que nous sommes sauvés après tout ce que nous pouvons faire. Ça va vous choquer, mais écoutez bien. À force de toujours mettre l'accent sur la grâce, ça a incité certains chrétiens à ignorer ce que nous pouvons faire. Et aujourd'hui, on voit tellement de relâchement dans l'Église, dans les milieux chrétiens, même des stars, n'est-ce pas, du monde évangélique, enfin, des choses. Parce que la notion erronée que nous pouvons être sauvés par la grâce divine, même si nous péchons, s'est introduite petit à petit dans les consciences, et voilà. Mes frères et sœurs, personne ne sera sauvé par la grâce en dépit des mauvaises choses qu'ils auront pu faire. C'est faux, ça. Jamais. Les évangéliques ont trop insisté sur le fait qu'on peut toujours obtenir le pardon. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas prendre le risque de minimiser le sens de l'expiation. C'est parce que l'expiation n'est pas prise au sérieux qu'on voit tant de relâchement. Parce que, à force de croire qu'on peut toujours être pardonné, ben on se permet des choses que notre esprit ne supporte pas. Oh, notre âme s'arrange toujours, hein? Elle va échafauder des raisonnements plus ou moins spirituels pour se rassurer, notre âme, hein? Mais notre esprit, cette étincelle divine, cette partie de nous qui est divine, cette partie de nous qui sait tout, elle arrive à un point où elle ne peut pas supporter. Elle ne peut pas supporter. Et notre esprit, alors, il va produire une fatigue, une lassitude spirituelle, un découragement, un poids qu'on peut même ressentir physiquement. Vous savez, Jésus sur la terre, il était très préoccupé par l'idée de paraître trop prompt à pardonner, à être trop prompt, à être trop indulgent à l'égard du péché. Il était très préoccupé par ça. Écoutez-le parler quand il dit, par exemple, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il rajoute « Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » C'est des paroles de consolation, mais il ne nous cache pas que si nous venons à lui pour être, parce que nous sommes fatigués, nous sommes chargés, il veut nous donner du repos, il ne nous cache pas que quand on vient à lui comme ça, nous aurons désormais à marcher au pas avec lui. À marcher au pas. Quand vous voyez des bœufs en train de tirer la charrue avec le joug sur leur cou, un bœuf d'un côté, l'autre bœuf de l'autre côté, il n'y en a pas un qui danse le twist pendant que l'autre marche. Non, il marche au pas. Eh bien, si nous prenons le joug de Jésus, on marche au pas avec lui. Il ne cache pas ça, hein. Son joug, son fardeau, c'est doux, c'est léger, oui, mais on doit s'y coller de tout notre cœur. Venir à Jésus et prendre son joug, c'est pas un événement, c'est un processus. Jésus ne nous demande pas de dire oui ou non à cette invitation, venez à moi. On a trop tendance à penser que c'est une expérience qu'on a faite. Moi je sais, c'était le 1er juin 1968 à 21h45 dans la maison du peuple, Raphaël, le gitan qui faisait un appel, et moi j'ai levé la main, j'ai dit oui à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne nous demande pas de lever la main en signe d'acceptation seulement. Il nous demande un écrit. Quel écrit ? Un écrit rédigé sur le chemin sinueux de nos expériences au quotidien. En avançant sur ce chemin, on s'aperçoit vite que Jésus est conscient de nos limites. Il est fort, Jésus. On s'aperçoit aussi que Jésus s'aperçoit que voilà, c'est difficile pour nous. Alors, à un moment voulu, on s'en aperçoit, il compense. Mais il compense après tout ce que nous avons pu faire. Nous avons à faire quelque chose avec ce joug. On doit tirer, hein? On doit avancer. C'est un fardeau quand même. C'est lourd. Même dire, oh, c'est léger. Oui, d'accord, mais il faut le faire quand même. Il est exigeant, le Seigneur Jésus. Vous voyez? C'est là, en plus du pardon du péché, une partie cruciale de la bonne nouvelle, une partie de la victoire, une partie de l'expiation, mes frères et sœurs. Quelques notes là que je vais vous lire. Les principes de base de l'expiation, elles ont tout d'abord trait en fait à la transgression d'Adam et Ève, mais aussi à nos péchés à nous. La chute a soumis Adam et Ève et puis leurs enfants à la mort, au péché. et aux autres caractéristiques de la condition mortelle dans laquelle on est depuis qu'ils nous ont séparés de Dieu par leur péché. Hein? Alors, pour permettre à l'humanité d'être de nouveau unie à Dieu, Dieu, dans sa justice, réclamait une compensation à ces conséquences de la chute. Et la miséricorde de Dieu a permis donc que Jésus, le Sauveur, vienne pour faire cette compensation par l'expiation. Frères et sœurs, du fait de sa vie qui était sans péché, de sa qualité de fils unique de Dieu, du Père, et du fait qu'il était disposé à boire cette coupe amère, parce que c'est une coupe amère de justice, eh bien, Jésus-Christ a pu expier de manière inconditionnelle la transgression d'Adam et Ève et la mort physique, et expier de manière conditionnelle nos péchés. Ah, c'est là qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas bien compris. La partie inconditionnelle de l'expiation, c'est le don gratuit de la grâce qui ne réclame aucune action de notre part. Par contre, l'élément conditionnel, il impose le repentir pour que la miséricorde s'applique à nos péchés. Vous comprenez? Si nous ne nous repentons pas, eh bien, nous devons souffrir comme le Seigneur a souffert pour satisfaire aux exigences de la justice de Dieu. Et ce n'est pas possible. On ne peut pas se sauver soi-même. Si on refuse de se repentir, eh bien, on doit subir, par conséquent, on doit satisfaire la justice en souffrant pour nos péchés. Et on va rester dans un état qui ne nous permet pas d'entrer dans le royaume de Dieu céleste, puisque ce n'est pas possible, ça ne peut pas satisfaire. Il fallait que ça soit quelqu'un sans péché. Si on n'accepte pas la proposition que nous fait Jésus-Christ de porter nos péchés, nous ne connaîtrons pas la transformation complète qui résulte de l'action combinée de l'aide divine et du repentir sincère. Vous voyez ? La miséricorde et le repentir ont pour but de transformer, pas de punir. Le Sauveur nous demande de nous repentir, pas simplement pour le rembourser, d'avoir payé notre dette à la justice, mais aussi pour nous inciter à subir, l'évolution qui purifiera notre nature. C'est le joug. On subit. L'homme naturel, il restera éternellement ennemi de Dieu, même après avoir subi le châtiment de ses péchés. À moins qu'il ne devienne lui-même saint par l'expiation de Jésus-Christ le Seigneur. C'est simple pourtant. C'est simple, mais ce n'est pas toujours bien compris. Même lorsque le Sauveur accepte notre repentir, parce qu'on dit « j'ai accepté Jésus-Christ », mais attendez, c'est Jésus qui accepte ou non notre repentir. Même lorsqu'il accepte notre repentir sincère et nous accorde sa bénédiction, sa miséricorde, on en est seulement à ce moment-là que prêt à entrer dans la voie droite et étroite qui mène à la vie éternelle. On n'est pas loin là, hein? On est juste là, il accepte notre repentir et on est juste seulement prêt à entrer. Vous savez, Adam et Ève, en fait, c'est comme pour Adam et Ève, on fait beaucoup de choix qui sont imparfaits, qui causent de la souffrance ou des ennuis aux autres, puis à nous-mêmes. Et certains de nos jugements sont... Il y en a qui sont sages, mais il y a des jugements qui ne sont pas sages. On peut penser, par exemple, aux accidents qui sont dus à l'imprudence. Par exemple, s'endormir au volant, on ne fait pas exprès. Hein? C'est l'imprudence. Et ça peut avoir des effets dévastateurs aussi tragiques que la violence délibérée, celle qu'on veut. Pensez aux paroles agressives, aux promesses oubliées par quelqu'un. Hein? Quelqu'un vous a fait une promesse, puis l'oublier. ça crée quelque chose. C'est des incidents qui peuvent avoir des conséquences très graves. Mais toutes ne sont pas le résultat d'un péché volontaire. Toutes ces conséquences ne sont pas forcément le résultat d'un péché volontaire. C'est des oublis, c'est de la négligence, c'est de l'imprudence. C'est important de le dire. Nos choix peuvent nous conduire à l'arbre de la connaissance, tout comme le choix d'Adam et Ève les a conduits. En nous trouvant face à face avec les conséquences tristes ou heureuses de nos choix, on peut, comme eux, apprendre par expérience à distinguer l'amer et le doux. Rappelez-vous, la divine dichotomie. Il n'y a pas de haut sans le bas, il n'y a pas de droite sans la gauche, il n'y a pas de mal sans le bien, il n'y a pas de bien sans le mal. Il n'y a pas l'amer sans le doux. L'amer, je ne parle pas de la maman, hein, je parle de ce qui est amer. On dit souvent la vie c'est une école, un endroit où on apprend et où on progresse. Alors comme Adam et Ève, eh bien on connaît des douleurs de croissance à cause des chagrins, à cause de la contamination de ce monde triste, désolé dans lequel on vit aujourd'hui. Mais parmi ces expériences, il peut y avoir le péché, mais il y a aussi les erreurs. Les déceptions, la souffrance qui n'est pas méritée, causée par l'adversité. Et mes frères et sœurs, la bonne nouvelle de l'évangile, c'est que l'expiation de Jésus-Christ peut purifier tout ce qui est impur et adoucir l'amertume à laquelle vous goûtez. Nous pourrions considérer l'étendue de notre responsabilité vis-à-vis des mauvaises choses qui se produisent dans notre vie, comme une espèce, comme sur une échelle, vous savez, on dit sur l'échelle de Richter, hein, allant du péché à l'adversité, hein, l'échelle sur laquelle la gravité de nos fautes, elle passe du point élevé, à un bout de l'échelle, à zéro, à l'autre bout. Et quand on se trouve à l'extrémité péché de l'échelle, alors on doit assumer une responsabilité grave, hein, parce qu'on s'attire sans réserve les fruits amers du péché. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais à l'autre extrémité de l'échelle, où c'est marqué adversité, il n'y a aucune responsabilité. L'amertume de l'adversité peut s'abattre sur vous, comme ça a été le cas, par exemple, sur Job, indépendamment de toute faute véritable ou délibérée. Et pourtant, hein, la peine, elle est là, l'amertume, elle est là. Et tout le long de cette échelle d'évaluation des fautes, entre le pôle du péché et puis le pôle de l'adversité, il y a tous les points intermédiaires. C'est quoi ces points intermédiaires? C'est les choix mal avisés, c'est les jugements hâtifs. Et dans ces cas-là, l'importance de notre responsabilité vis-à-vis des fruits amers qu'on goûte ou que nous faisons goûter aux autres, ça peut des fois ne pas être très clair. L'amertume, elle a le même goût. Quelle qu'en soit la source, l'amertume, elle a le même goût. Elle peut détruire notre paix, elle peut nous briser le cœur, elle peut nous pousser au découragement, elle pourrait nous séparer de Dieu. Alors, l'expiation de Jésus-Christ peut réparer ce qui est brisé. C'est ce qu'on vient de lire. Je crois cela parce que goûter à la mer sous toutes ses formes, c'est une partie voulue du grand plan de Dieu. Cette conséquence de la chute n'a pas été simplement une terrible erreur. Mais je crois qu'elle donne plutôt à notre condition mortelle un sens profond. Nous goûtons à la mer afin d'apprendre à apprécier le doux. Ça fait réfléchir, n'est-ce pas? L'expiation peut guérir l'effet de ce goût d'amertume. Ce pouvoir guérisseur nous purifie l'esprit à condition que nous nous repentions lorsque notre âme est souillée par le péché. Elle peut également apporter la compensation après tout ce que nous pouvons faire, non seulement des conséquences de nos péchés, mais aussi des effets nocifs de notre ignorance, de notre négligence et de toutes ces choses dont je viens de parler. Voilà ce que fait l'expiation. Mes frères et sœurs, c'est absolument fantastique. C'est absolument fantastique. Jésus fait au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Mais il est bon quand même d'imaginer, il est quand même bon d'avoir une image claire. Pensez à cette image que je vous ai donnée de l'échelle. Avec un bout c'est le péché, à l'autre bout c'est l'amertume. Eh oui, l'amertume due à l'adversité. Il y a l'amertume due à notre péché, l'amertume due à l'adversité. On n'est pas responsable de tout, mais on a bien des chagrins, bien des problèmes, bien des difficultés, mais l'expiation de Jésus-Christ compense. Mes frères et sœurs, c'est pourquoi je vous dis, il est bon de comprendre ce que nous lisons dans les Écritures afin de pouvoir vivre les Écritures. Pas simplement comprendre la signification du mot, mais l'esprit dans lequel Jésus a dit ces choses magnifiques pour nous. Nous avons à comprendre l'esprit de ces choses afin de pouvoir nous diriger correctement dans cette vie et nous réjouir, sachant que l'expiation couvre tout. Il est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes pauvres, il est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes malades, il est venu pour nous annoncer une bonne nouvelle. Nous sommes tourmentés, il est venu pour nous apporter une bonne nouvelle. On est victime d'un chantage, il est venu pour nous apporter une bonne nouvelle. Quoi que ce soit qui vous arrive, il est pour vous la bonne nouvelle. Comptez sur lui. Mais n'oubliez pas de faire ce que vous avez à faire. Vous êtes aussi en train de tirer la charrette, la charrue, avec lui. Vous êtes avec lui, mais vous avez votre part à faire. Et là où vous ne pouvez plus, Jésus compense. Que Dieu vous bénisse. J'espère que ces quelques mots vous auront béni, vous auront fait du bien. J'espère de tout mon cœur. Et je vous dis à bientôt. Vendredi prochain, je serai de nouveau là et avec mon épouse dans la communauté, parce que tout le monde est parti en vacances. Alors, nous avons pensé que pour nous aussi, nous pouvions prendre quelques jours. Et voilà. Dimanche, ce sera Alain qui assurera le culte à la chapelle. Et je prie pour que tout se passe bien pour vous et pour toute la communauté. Amen. Jésus, je te remercie de bénir mes frères et sœurs, de ceux qui viennent sur Internet régulièrement. Merci pour toutes les lettres qu'il m'envoie, pour cet encouragement que cela me donne aussi. Merci de bénir aussi et de répondre à toutes les requêtes de prière. Que ton nom soit béni et glorifié par la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, maintenant je prie que personne ne se laisse aller au découragement, mais que tous puissent apprécier l'amer pour pouvoir mieux apprécier le goût du doux. Merci Jésus. Amen.